Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Mediapart, bienvenue dans Un monde à vif. 10 ans après le soulèvement populaire de 2011, la Syrie a basculé dans l'une des pires guerres du XXIe siècle, une guerre qui a fait le lit du monstre terroriste Daesh. Des centaines de milliers de vies ont été détruites, des millions de civils ont été poussés sur les routes de l'exil. Bachar el-Assad, le dictateur, lui, est toujours en place. Il n'a pas hésité à bombarder les hôpitaux, les écoles, à utiliser des armes chimiques contre la population. Alors que la communauté internationale brille par son impuissance et par le silence, nos trois invités luttent pour que la Syrie ne bascule pas dans l'oubli, dans l'indifférence, pour que l'impunité cesse aussi. Bonjour Yassine El-Hajj Saleh, vous êtes l'une des figures de la dissidence syrienne. Vous avez passé 16 ans dans les geôles du régime Assad, dans les geôles du père Hafez. Vous avez également éprouvé le régime du fils Bachar. Vous êtes aujourd'hui exilé en Allemagne, à Berlin, et nous sommes ravis de vous compter parmi nous. Avec moi ici à Paris, deux femmes, deux écrivaines qui se sont intéressées à votre histoire, à votre combat à la Syrie. Justine Augier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivaine et vous avez récemment signé aux éditions Actes Sud un ouvrage impressionnant par une espèce de miracle. C'est l'histoire, le combat, la vie de Yassine El-Hajj Saleh. Ce n'est pas votre premier ouvrage sur la Syrie. Celui-ci succède à De l'ardeur, le portrait d'une autre figure de l'opposition syrienne, Razan Zaitouneh. Razan Zaitouneh a disparu en octobre 2013. Elle a été enlevée par un groupe armé islamiste en même temps qu'une autre femme, en même temps que Samira Al-Khalil. Samira Al-Khalil, c'est votre épouse, Yassine El-Hajj Saleh. Voilà maintenant 7 ans que vous êtes sans nouvelles d'elle. Depuis, vous écrivez des lettres. Ces lettres ont été rassemblées dans un ouvrage déchirant, Lettres à Samira. Et c'est notre deuxième invitée qui les a traduites en français. Bonjour Souhad Labiz.
Bonjour Rachida.
Vous avez donc traduit de l'arabe vers le français ces lettres poignantes de Yassine El-Hajj Saleh à son épouse disparue. Avant que vous nous racontiez l'une et l'autre pourquoi la Syrie s'est invitée dans vos trajectoires d'écrivaine, je vais avoir un échange avec Yassine El-Hajj Saleh en direct de Berlin. Yassine El-Hajj Saleh, c'est une chance de vous avoir avec nous aujourd'hui. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres et parmi ceux qui ont été traduits en France, l'un d'entre eux s'intitule « Récit d'une Syrie oubliée ». C'est aux éditions « Les Prairies ordinaires ». 10 ans après la révolution écrasée par le régime criminel de Bachar el-Assad, le monde a-t-il oublié la Syrie?
Many people in the media and research centers and governments care less now about Syria because of COVID, because of so many problems, because of the big interests. You know that in Syria we have Syria is approached through the lens of the war on terror, which in a way gives legitimacy to a genocidal regime. Actually, Bashar al-Assad is not a dictator. He's a genocidal ruler, and his regime is genocidal. So when you have America, when you have Russia, when you have Iran, when you have Turkey, when you have Israel, and when you have even special forces from France, from Britain, from many countries, this, in a way, gives legitimacy to a genocidal regime and makes Syrians invisible, make the victims and those who struggled for democracy, for freedom, for political change in the country, invisible. We are now only visible through the lenses of being refugees, being victims, not as a big story for fight, for change, and for democracy in the country. So I'm sorry, this is the situation now after 10 years, which tells us something about the world. I mean, I see that the world now is without alternative. There's no alternative, as Margaret Thatcher said once. And it is the same structure in Syria. There's no alternative to, since the first year that many people told us there's no viable or no credible alternative to Bashar al-Assad.
Pour la première fois, le 24 février, une cour de justice en Allemagne a condamné un tortionnaire syrien pour les exactions commises en Syrie. Ancien membre des services de renseignement, Eyad El-Gharib a écopé de 4 ans et demi de prison pour complicité de crimes contre l'humanité. Début mars en France, c'est une plainte qui a été déposée pour crime contre l'humanité et crime de guerre après les attaques chimiques dans la Ghouta orientale, près de Damas, attaques qui hantent nos mémoires. Est-ce le début de la fin de l'impunité pour le régime syrien ?
I'm afraid not. It is a good thing. It can be a beginning for. It can be a powerful letter to the criminals of war in Syria and those who committed the crimes against humanity. But it'll be a big exaggeration, in my opinion, to think that this is the first step towards justice in Syria. I don't see any international will for this. The regime is protected by very powerful protectors, and there are no states or you or international bodies interested really in incriminating Bashar al-Assad and his security. Man, I hope this will happen someday, but I'm afraid that the Copeland's tribunal is just something related to two guys. Maybe there's a third guy who was a doctor and a torturer as well. It is a good thing, but I don't see it as the first step towards justice in Syria and for Syrians.
Même si Bachar el-Assad a remporté une victoire militaire sur l'insurrection, la Syrie apparaît brisée, ruinée. Quelle est la situation aujourd'hui?
Well, you see, we have five occupation powers. Iran first, actually first Israel, that occupies Syrian territory since more than half a century. Iran, since the beginning of the uprising in 2011-2012. Then America in 2014. Then Russia a year after America in 2015. Then Turkey after them in 2016. We have many sub-state actors, proxies working with these states. We have four Syrias now. Idlib has a special situation with HTS, Syria that dominated by the Russians and the Iranians, then the American in the north and the same part, and a part of Syria is controlled by Turkey. We have 6.5 million displaced outside the country, which is almost 30% of the population. Only this morning, I read in some news that 1.2 trillion are the causes of the destruction that happened in Syria, which is more than 20 times the national income of Syria in 2010. So it's a huge thing, and the Assad regime is still in power. The worst of it is that it's still in power. This means that we cannot say that the worst is behind us. I am afraid that with the reinstalling of the regime, that the worst may still even be in front of us. We may say even more destruction, more losses. You know that it is at least 500,000. We've been talking about 500,000 of victims for 5 years now. Most probably it is higher than this.
Guerre civile, répression, contre-révolution, ingérence étrangère, effondrement des États, montée en puissance des milices. Est-ce que la Syrie est devenue aujourd'hui la vitrine d'un monde arabe menacé de dislocation?
Not only for the Arab world, actually, for the world. In a way, what's happening in Syria is a rare example. It's a sort of microcosm, actually. When you have all these powers, when you have so many sub-state actors, when you have all these extremes of human experience, we cannot talk as a country just defined by its being an Arab country. It is in the Middle East, which is the most internationalized region in the world. And when you have the Americans, the Russians, and all the others, it is a global thing. Syria, in my opinion, is a global metaphor of the absence of alternatives. We are in a closed world, and when there's no alternative, we risk very much violence and terror. So terror is the outcome when the world is closed in this way and there is no project, no vision, no way out of the situation.
Vous avez été emprisonné pendant 16 ans dans les geôles syriennes. Comment on tient pendant 16 années dans les prisons de ce régime? À quoi est-ce qu'on se raccroche? Quelles sont les fenêtres intérieures?
I really don't know. I was young. And our conditions were quite bad. I was tortured at the beginning. Then I spent the last year, the 16th year, in Tadmor prison, which is a torture camp. But I was young. Our conditions, apart from first two or three years and the last year, were not extremely bad. So, and I like to read, I like to learn, and in a way, learning and reading and, saved me. So, I am indebted to the books that I read in jail. Look, in Syria, corruption is a big problem because it is a solution. So, we were able to get many things through bribing and through through indirect ways. So we got books, we got dictionaries, many things, and I am indebted to what I was able to do in jail. I am living now, or I am living ever after, on what I learned in jail rather than on what I learned at the university.
Le 5 octobre 2013, vous avez quitté la Syrie. Vous avez quitté votre ville natale, Raqqa, qui est devenue aujourd'hui un symbole sinistre, car elle a été la capitale un temps de l'État islamique. Vous êtes allé en Turquie, vous avez passé la frontière, et quelques années plus tard, vous avez été en Allemagne, à Berlin. L'exil, c'est aussi une forme de prison. Vous vous souvenez du jour du départ, du jour du commencement de l'exil ?
Yeah, of course, I'll never forget such a day because, as you've just said, I never thought of leaving the country. Even when I left from Istanbul to Raqqa, my plan was not to leave to Turkey, but it was under the control. It was becoming more and more under control of Daesh, and it became very dangerous. And Samira was very anxious, but me and two of my brothers were in their hands. Fortunately, one of them was released weeks later. So when I left, it was October 11, 2013. I remember this very well. I had only my PC in a bag. And the trip was easy, actually, because a friend who was an expert took me by car. And in 3 hours, I was at the border and everything went easy. But then I was in another layer. Samira was in Istanbul with Razan, and when I was in Raqqa, she was worried about me. When I left, I started to be very worried about her, and you know the story. It was October 11 was the day of a brand new stage in my life. It is like the day I was taken to jail. I usually think of the relation between home, jail, and exile as a generative relation. When you are prevented from leaving home, it is jail. When you are prevented from going back home, it is exile. So I have all these experiences, and now I am jailed in a way. I am jailed outside my home, in the literal meaning and in the figurative meaning of the word home.
Est-ce que vous pensez au retour un jour ou l'autre, ou pas du tout?
Of course, I do. It is part. It is part of my destiny. It is. The circle will not be complete unless I go. I'm not sure that I'll go. I don't know, but. I want to go. I have people there to try to find, to trace back, to build the whole story. It is part of a very big struggle. We have one of the biggest stories in the world now, and I want this story to be lived and to be told. The story will not end unless. Unless the final stage is in Syria. I don't have guarantees about this, of course, but I hope that this will come one day.
La guerre en Syrie, c'est des centaines de milliers de morts, des millions de déplacés, vous l'avez dit. On a l'impression qu'aujourd'hui, le pays est privé de sa jeunesse. L'Allemagne est un des pays qui accueille le plus de réfugiés aujourd'hui en Europe. Est-ce que ces artistes, ces intellectuels, cette jeunesse pense à revenir aujourd'hui, un jour, en Syrie?
Well, as a matter of the conditions of returning back, no one will return back now. I think I defend, and many of them defend, the right to stay, not to go back now. We defend our right not to go back under these conditions when the genocide regime is still there. So it is part of our identity. We are refugees, we are exiled, and we'll not go back to the same regime that killed or responsible of killing more than 500,000 and who has a history of torturing and killing people. But I believe that a majority of us want to go back if we can do something, not the same things that we are doing here in Germany or in France or in Sweden or in the Netherlands. It is just part of it because we were not able to do. You see now a plethora of Syrians doing creative activities, writing and films and many artistic activities and theater and novels and academy. We were not able to achieve one tenth of this in Syria, even less actually. Many of the young people who are very creative now would have lived a life in obscurity in Syria. So we'll go back. I think many of us want to go back if we can do what we are doing now and or something closer to it.
La Syrie, c'est une conjonction de drames collectifs et intimes. En décembre 2013, votre épouse Samira Al-Khalil a été kidnappée par des djihadistes alors qu'elle se réfugiait au sud de Damas pour fuir la répression du régime syrien. Vous êtes sans nouvelles d'elle depuis lors. Comment on supporte cette épreuve? Comment on se relève? Comment on vit avec l'absence, la disparition de l'être aimé?
Well, I keep asking myself what I am doing here. When I was in Turkey or when I was, well, now I'm in Germany for 3 years and a half. But this, I tend to think of, to have a very strong connection between the personal and political. And I think of Samira's absence as something related to a very big experience of absence. She was in jail herself. I was in jail. So we have many forms of absence in these in this last half a century of the Assad family rule. I think of Samira's absence as part of this very big story. Of course, this doesn't help very much because in the end, Samira is my wife, my partner, and we had life. So it is crushing. It squeezes the soul. Actually, when I think of these days, these now more than 2,300 days of absence, and the idea of letters came because I was in the moment when I felt this crushing experience, and I need a way to talk to her. So I wrote many articles about her and about the cause and about Razan and about the four. And I edited her words. I had some papers handwritten by her and some Facebook posts about the diaries in Ghouta. But then I felt that I need also to talk to her directly. So, the idea of the letters came to as a response to this need. I define myself as the husband of Samira. This is my identity, and I think I am living with it, and I hope I just hope that I will not die with it.
Lettre à Samira vient d'être traduite en français aujourd'hui. Justine Augier, Souad Labiz se sont intéressés à votre histoire, à votre femme, à votre pays, à votre peuple. Comment avez-vous apprécié leur démarche?
Beyond borders. It is well, I'm proud that I have so many friends in almost all over the world. Actually, I'm very happy and I'm very proud of this. This gives me strength. This gives me high morals, actually, and I'm happy that most of them are women. They identify, I guess, with our story. They identify with Samira, with Razan. They identify with the whole story. They feel it maybe a bit more than many men. So it is. I mean, when I left Syria, I didn't know anything about Suad or about Justine. And now we are friends and we are working and we are contacting each other and we are planning things. And so I cannot be happier, actually, though it is a tragic situation. But still, when you have friends like Justine and Suad, it is so, so, so great thing.
Merci infiniment, Yassine Al-Hajj Saleh. Nous nous quittons, mais pas vraiment, car nous poursuivons la conversation ici à Paris avec Justine Augier et Souad Labiz. À très bientôt. Vous restez en tous les cas notre fil rouge. Au revoir. Justine Augier, Souad Labiz, on vient d'entendre Yassine Al-Hajj Saleh. Il dégage une force impressionnante et beaucoup, beaucoup d'espoir. Comment vos routes se sont-elles croisées?
J'ai découvert l'existence de Yassine quand je vivais au Liban, dans un documentaire qui lui était consacré, dans lequel on le voyait en fait à Douma, avec Samira d'ailleurs, il y a une très très belle scène, et puis ensuite on le voit faire la route jusqu'à Raqqa, rester à Raqqa, et puis finalement gagner la Turquie. Moi, dans ce documentaire, c'est d'abord la personne de Razan Zaitouneh qui m'a interpellée, donc je vais consacrer un livre, mais disons qu'au-delà de Razan, c'est vraiment la prise de conscience, si vous voulez, de la beauté de la révolution syrienne, de son écrasement. Et derrière ça, la grande indifférence, la grande trahison du monde, comme dit Yassine, qui fait comme un double écrasement. Voilà. Et donc, moi, je me suis sentie, par rapport à ça, très concernée, en fait. Très concernée aussi parce que, en tant qu'individu, en tant qu'européenne, en tant que citoyenne du monde même, parce que c'est quand, je pense, quand un peuple fait une révolution, même si évidemment toute révolution est singulière, ça met en jeu quand même des valeurs qui sont universelles. Les Syriens sont descendus dans la rue pour réclamer la dignité, la liberté, la justice. Donc je crois que ça nous concerne tous. Et je crois que aussi quand il y a des crimes tels qu'ils ont été commis en Syrie, et la connaissance de ces crimes, elle est monumentale. Donc ça rend l'inaction encore plus insupportable quelque part. Oui, je crois que ces crimes contre l'humanité me concernent aussi, précisément. Voilà.
Vous aussi, c'est cela qui vous a mobilisé, Souad, en cherchant à traduire absolument ces lettres à Samira. C'est lutter contre l'oubli, contre l'indifférence, la trahison du monde. Ou c'est aussi l'universalité de ces lettres, lorsqu'elles parlent de l'amour, de l'absence, de la disparition, de la liberté?
En fait, pour revenir à votre question, à comment j'ai rencontré déjà la question syrienne, hein, si on appelle ça la question, c'est qu'à l'époque, dès le début de la guerre, enfin, d'abord dès le début de la révolte, de la révolution, j'ai essayé de suivre, j'arrivais plus à dormir, j'avais commencé à suivre déjà ce qui s'était passé déjà depuis la Tunisie, en sachant que je suis concernée par la Tunisie parce que je suis aussi tunisienne. Mais après, je me suis sentie syrienne, et d'abord parce que j'ai été d'abord fortement étonnée de découvrir que les Syriens descendaient dans la rue, parce que je me suis dit tout le monde peut le faire, sauf les Syriens.
Pourquoi ?
Pas parce que eux ne sont pas capables, mais parce qu'ils ont un régime qui est terrifiant. C'est-à-dire, en Europe ou en Occident, on parle beaucoup de l'autorité d'un pays autoritaire comme la Corée du Nord. Moi, je me dis, je ne sais pas si c'est pire, mais moi, pour moi, s'il y a une autorité qui est terrifiante, c'est l'autorité syrienne. Donc sur le peuple syrien, sur les voisins libanais. Donc quand les choses ont commencé, donc on est sorti de dès que le régime a géré à sa façon très très dure, très cruelle la révolte, avec un collectif, il n'existait pas, mais des personnes à Toulouse se sont senties concernées, et donc il y a un collectif qui s'est créé de manière informelle, des amis, des militants, entre autres des Syriens, et donc le groupe s'est appelé par la suite Toulouse-Syrie Solidarité, avec l'idée, au début, c'était d'informer sur ce qui se passait en Syrie. Donc l'idée, c'était que nous puissions inviter des personnes capables de parler de la Syrie dans des librairies, dans des lieux de militance. Et c'est comme ça que nous avons invité des écrivains syriens exilés, des poètes, des poétesses. Et c'est comme ça que nous avons invité à l'époque Yassine, qui est venu, et il m'avait impressionné. Et à l'époque, Samira, avec les trois autres, avait déjà disparu. Mais on pensait, je pense que, on se disait, elle va réapparaître, ils vont réapparaître. Et puis, il y a eu les lettres, quand Yassine a commencé. Donc Yassine a écrit les lettres sur à peu près une période de 2 ans. Quand il a commencé à les publier sur les réseaux sociaux, et donc j'ai commencé à les lire et j'ai trouvé que c'était, en même temps, on était dans cette histoire très particulière, donc, qui est en même temps la singularité de cette histoire-là, où en fait Yassine parle de sa relation à son épouse, à sa compagne, qui est où on est dans l'universel. Et donc petit à petit, je me suis mise à traduire. Et voilà, c'est l'été dernier, j'en ai parlé à mon éditrice, qui m'a dit on y va, on publie le livre.
Razan Zeitouneh, Samira El Khalil ont été enlevées toutes les deux en même temps. Qui sont-elles? Vous qui avez consacré un livre à Razan, est-ce que vous pouvez nous parler de cette femme qui est aussi une figure de l'opposition syrienne?
Oui, c'est une grande figure de l'opposition syrienne, mais très discrète et très humble, mais qui était engagée depuis des années déjà. C'est une avocate, en fait, à l'origine. Et donc, elle a fait un travail de documentation assez incroyable sur les crimes du régime. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça semble pas grand-chose vu d'ici, mais c'est énorme, c'est un acte de résistance énorme, hein, puisque le régime syrien empêche la création d'une mémoire, la création d'une histoire. C'est un régime qui se veut éternel. Donc c'est en soi un acte de résistance immense que de faire ça. Et elle a soutenu les prisonniers. Mais c'est essentiellement un travail de documentation, parce que vous comprenez bien qu'on va pas défendre les prisonniers devant les cours, etc. Enfin, ça n'existe pas avec le régime syrien. Ensuite, c'est quelqu'un qui écrit des textes magnifiques et qui s'est impliqué dans la révolution, qui a été à l'origine de la création des comités de coordination locaux, qui sont un instrument magnifique d'organisation de la révolution, qui ont voulu aussi, après avoir organisé la révolution, recréer en fait de la gouvernance dans les zones libérées, parce qu'il y avait tout cet espoir. Et c'est une femme, et je pense qu'on peut dire la même chose de Samira, extrêmement libre, et qui appréhende le monde dans sa complexité. C'est-à-dire, c'est pas des gens qui sont enfermés dans une idéologie, si vous voulez. Et c'est ça qu'elles ont payé de façon très chère, parce que elles ont, quand à Douma, où elles avaient trouvé refuge après avoir vécu dans la clandestinité à Damas, il y avait ce groupe, donc l'armée de l'islam, qui a pris progressivement le pouvoir. Et Razan s'est mise aussi à s'intéresser aux crimes commis par ce groupe. Et en fait, voilà, c'est vraiment, elles représentent, elles incarnent, si vous voulez, cette opposition démocratique très ouverte, qui avait très envie de rassembler les Syriens dans leurs différences, etc., pour créer une alternative au régime. Et ce qui est terrible, c'est que, en fait, ces gens-là finissent toujours par perdre la partie. C'est-à-dire que le régime et les islamistes sont devenus des alliés objectifs pour faire disparaître cette opposition-là. Et cette opposition-là, elle a complètement disparu, que ce soit Samira, Razan qui ont disparu là-bas, que ce soit ceux qui ont disparu dans les geôles du régime, que ce soit ceux qui, comme Yassine, ont quitté le pays. Elle a été vraiment... Ils ont combiné leurs efforts pour faire disparaître cette opposition-là.
Ben, c'est pareil, Samira est déjà, comme on l'a dit précédemment, a payé de sa vie. Elle a été torturée.
Elle avait également passé 4 ans en prison.
Donc, plus de 4 ans, 4 ans et demi. Donc elle a été successivement dans 1, 2 ou 3 prisons. Et donc elle était aussi donc la campagne de sur le terrain à Douma en tout cas, mais même avant, elle s'est impliquée dans un travail social avec les femmes en particulier et les enfants pour et parce qu'aussi elles y croyaient et ils y croyaient parce qu'il y a pas que les quatre ce qu'on appelle les quatre disparus de Douma. L'idée c'était d'accompagner cette libération de la main du régime et qu'elles ont voilà ils l'ont payé, ils sont nombreux à l'avoir payé d'ailleurs.
Justine, on sent de la colère dans votre livre, la colère bien sûr de Yassine El-Hajj Saleh, qui est celle de tout un peuple écrasé dans sa quête de liberté, de dignité, de justice, comme vous l'avez dit. Mais on sent aussi votre colère à vous, vous l'aviez dit également, de citoyenne du monde, citoyenne européenne, citoyenne d'un Occident impuissant, et peut-être un peu traître aussi. Face à cette horreur toujours en cours, à laquelle on s'est persuadé qu'on ne pouvait rien depuis longtemps déjà, dites-vous, l'horreur qui se double d'une autre, de celle que contiennent les discours de réconciliation qui s'imposent, les discours selon lesquels nous n'aurions pas d'autre choix que celui de renouer le dialogue avec le régime criminel, l'horreur de tous les renoncements contenus là dans ces mots. C'est ça, c'est la colère qui porte.
Oui, il y a de la colère, mais je crois surtout il y a la volonté de montrer à quel point, Yassine l'a mentionné tout à l'heure, cette histoire, elle raconte beaucoup de ce qu'est le monde aujourd'hui. C'est-à-dire que vraiment, les renoncements qui sont à l'œuvre sont immenses. C'est-à-dire que non seulement on n'a pas soutenu les révolutionnaires syriens, on les aide à peine. Enfin, il y a des activistes qui trouvent des brèches pour obtenir des bribes de justice ci et là, mais sinon, l'impunité, on l'accepte totalement. L'hospitalité n'a pas été offerte non plus à ces gens qui ont quand même fait une révolution. Ce qui n'est pas rien, c'est quand même énorme de faire une révolution. Et je crois qu'on vit vraiment dans un monde donc qui a renoncé. Et je trouve que Yassine l'a très bien dit tout à l'heure, cette idée d'un monde clos, fermé, enfin sans alternative, il a dit. Et ça, c'est pour moi quelque chose de très fort. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression qu'on vit dans un réel qui est totalement assiégé. Et ce qui s'est passé en Syrie, c'est justement l'idée de dire... En fait, il y a du possible. Il y a du possible qui n'est pas forcément le pire. Et les révolutionnaires syriens, parce que moi, j'aime revenir à la révolution, parce que la révolution, elle a été magnifique, cette révolution syrienne. C'est un peuple qui, tout d'un coup, descend dans la rue, entend sa voix pour la première fois, fait preuve d'une imagination, mais incroyable, d'une ingéniosité folle, qui renoue avec cette idée que la langue, elle peut changer les choses. Voilà... Oui, il y a une colère, mais il y a vraiment aussi la volonté de peut-être même de dire tout ça, c'est quand même c'est plus qu'un rappel à l'ordre, je crois. Voilà, il faut le regarder comme un miroir de notre monde qui nous renvoie une image qui est quand même très inquiétante, parce que je pense que quand ces renoncements-là sont à l'œuvre, là, je pense notamment en tant qu'européenne, je pense que là, on a renoncé à des choses qui sont le socle même, en fait, de ce qu'on a tenté de faire après la Seconde Guerre mondiale. Donc, quand on renonce à ça, je pense qu'il y a beaucoup de catastrophes qui sont contenues là, de catastrophes à venir.
Monde fermé, l'Europe en est un exemple criant. C'est une forteresse aujourd'hui barricadée. On le voit dans le traitement des exilés, des réfugiés, et la France est un exemple consternant. L'approche est de plus en plus sécuritaire et répressive de la question migratoire. Au quotidien, ça vous interpelle, soit ça vous met en colère aussi.
Ça me met en colère, mais j'ai aussi peur. J'ai peur de vivre dans ce monde-là. J'essaie de revendiquer. Je défends le droit à l'innocence, c'est-à-dire d'être innocent et d'avoir des idées, des idéaux. Et je revendique le droit de dire c'est pourquoi est-ce que une clique de peu de personnes finalement ceux qui gouvernent nous ont enfermés et en ne laissant pas les autres venir. Je dis souvent, j'avais dit dans une interview en disant mais s'il arrive une catastrophe en Europe, on va aller où? On va pas aller en Australie, on est en Méditerranée, nous partageons un petit bassin. S'il y a une catastrophe chimique, s'il y a une guerre, où est-ce que les Européens vont aller? Ils vont aller peut-être en Afrique, en tout cas ils vont peut-être aller dans les pays du pourtour. S'il y a un problème en Europe, c'est peut-être là qu'on va aller. Donc comment, de quel droit on peut fermer une frontière à l'humain? C'est cette façon de devenir finalement les complices de ces régimes qu'on décrit. Donc je me dis, finalement, si on laisse faire ça en Syrie, ça veut dire qu'on peut vivre la même chose.
Accorder l'impunité aux criminels tels que les dirigeants aujourd'hui en Syrie, c'est abîmer nos démocraties.
C'est discrédité, c'est-à-dire on a beau dire, c'est pas la peine de nous faire vos discours, moi je n'y crois plus. Ça veut dire que si on laisse faire ça, quand on voit aussi la dérive en France, depuis 2 ou 3 ans, on est en train d'aller vers une espèce d'état policier qui, moi maintenant j'ai peur, quand si je vais dans des manifestations, je me dis comment je vais rentrer à la maison, est-ce qu'on va me casser, donc je suis de plus en plus je me sentais un peu plus en sécurité, je croyais être plus en sécurité parce que devenue citoyenne européenne, je me dis si on laisse faire ce qu'on fait, c'est à côté hein, la Syrie, c'est pas très loin, ça veut dire que ça peut aussi nous arriver.
Votre livre s'appelle par une espèce de miracle, allusion à une citation de la philosophe Simone Veil, que je vais reprendre, tirée de l'Iliade ou le poème de la force, une âme placée au contact de la force n'y échappe que par une espèce de miracle. Quel serait aujourd'hui le miracle qui parviendrait à rouvrir le champ des possibles en Syrie ?
Le miracle, déjà, d'abord, il est ténu. C'est donc ce qui échappe à la force, comme le dit Simone Veil. C'est-à-dire que c'est l'idée que la force ne donne pas toujours naissance à la force. Et je pense que Yacine en est un exemple magnifique. Ses lettres à Samira en sont un exemple magnifique. C'est-à-dire que face à cet acharnement, à cet écrasement, il y a cette façon d'habiter le monde tellement éthique, il a écrit ses lettres, il y a cette fidélité à son amour, à son engagement, cet espoir toujours. Il parle merveilleusement de l'espoir, Yacine, malgré tout. Enfin, mais d'ailleurs, l'espoir, c'est souvent les désespérés qui le font vivre le mieux. Donc il y a d'abord ça, il y a ce qu'on sauve vraiment des ruines. Le miracle, ce serait de sortir des lectures qui enferment le réel, qui enferment les êtres dans des identités immuables, comme on enferme par exemple les réfugiés. Enfin, c'est tout ce qui peut accepter qu'il y ait quelque chose qui surgisse, quelque chose qui étonne. C'est ça qui peut rouvrir les possibles au fond. C'est je pense une façon de considérer les choses plus éthiques, plus attentives, en donnant sa place justement au possible, à refuser cet enfermement en tout cas. Et je crois que Yacine et bien d'autres Syriens encore incarnent magnifiquement bien cette façon-là de regarder les choses.
Souhaitez-vous, quel est votre espoir pour la Syrie aujourd'hui ?
Peut-être, je ne sais pas, si l'espoir va venir de cette région-là, parce que ce n'est pas que la Syrie, hélas. Je ne sais pas, je n'arrive pas. D'abord, on n'est pas sorti d'affaires. Enfin, les Syriens ne sont pas sortis d'affaires. Quand on voit ce qui se passe au Liban actuellement, même en Irak, le Yémen, je ne sais pas. Je préfère dire que je n'ai pas d'espoir. Je suis assez... peut-être que c'est parce que j'ai pas d'espoir que je m'accroche à, je me dis comment je peux moi apporter un peu d'aide, c'est de donner voix. Pour moi la traduction est importante, hein. Je n'ai pas été formée pour être traductrice. Actuellement je l'annonce parce que je suis contente que ça de le faire actuellement et ça va exister. Et je suis en train de traduire le journal du siège de Samira. Donc l'histoire, c'est que Yacine a rassemblé des feuillets trouvés sur place que Samira avait écrit pendant le siège, où on sent sa fatigue, on sent que le désespoir ou la colère. Donc ce livre, Yacine a fait en sorte que ça devienne un livre où il y a ses articles à lui, et ça sortira en France d'ici l'automne. Et ça aussi, je suis contente. Donc actuellement, je vis avec... Je traduis actuellement le journal du siège. J'ai aussi entre le matin où je me dis, allez, vas-y, il faut le faire, parce que si tu ne le fais pas, peut-être que personne ne le fera. Donc il faut continuer à faire le haut-parleur de ces personnes-là.
C'est la fin de notre émission. Merci à toutes les deux de faire le haut-parleur pour la Syrie, pour ne pas laisser tomber ce peuple syrien dans l'indifférence, dans l'oubli. Je rappelle, par une espèce de miracle, est sorti aux éditions Actes Sud. Lettre à Samira, c'est aux éditions Les Lisières. Je rappelle aussi les deux livres traduits en France de Yacine Alhaj Saleh, La question syrienne chez Actes Sud, récit d'une Syrie oubliée, sortir la mémoire des prisons, c'est aux éditions Les Prairies Ordinaires. À très bientôt sur Mediapart pour un nouveau Un Monde à Vif.